Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 18 janvier 2023. On est ensemble jusqu'à 21h, chers auditrices et auditeurs, sur la plus belle des radios, votre radio préférée. Au menu de cette émission, en ce début de soirée, on va parler de quoi à travers Time Sport? On va parler d'un football français quelque peu décimé. On aura, entre autres, comme invité ce soir, Eric Thomas, le président de l'AFA. Et oui, c'est l'association du football amateur en France. On parlera aussi, notamment, c'est promis, du Paris Saint-Germain qui rencontrera le FC Riyad, cette équipe mélangeant des joueurs de Al Hilal et aussi Al Nassr. On aura notre consultant Nasser, justement, qui est du côté de la capitale de l'Arabie Saoudite à Riyad. On le retrouvera par téléphone, ça c'est promis, rien que pour vous, pour le plaisir de vous, chers auditeurs. Et on entamera aussi une petite page concernant le show de demain soir du côté de l'Accor Hotel Arena à Paris de la NBA. Eh oui, ce match tant attendu, un show à l'américaine. Rien de plus simple pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport, le 01 53 48 3000. Voilà, on vous donne la parole, le débat du jour. On le rappelle, un football amateur qui va mal. Ben c'est bien parce que ce soir, on va t'en parler de ce fameux football amateur. N'oubliez pas, ce numéro du standard, on le rappelle, au 01 53 48 3000. On va prendre la direction un peu, allez, des terrains de tennis avec notre consultant qui n'est autre que Louis-Marie. C'est parti.
Time Sport, sur Beurre FM.
Louis-Marie, bonjour. L'Open d'Australie, c'est vrai qu'un Rafael Nadal diminué, éliminé, justement. On en parle avec toi, Louis-Marie. Bonsoir, Louis-Marie.
Bonsoir Bilal, salut à tous, c'est un plaisir de vous entendre pour cette année 2023.
Aussi, une très belle année.
On va passer à l'antenne cette année.
Bonne bien année sûr, la santé surtout, les maris.
Bien sûr. Effectivement, c'est un petit peu un désastre attendu, hein, Rafael Nadal. Tout le monde se voilait un petit peu la face parce qu'il était tenant du titre, mais on savait que ça allait mal du côté de l'Espagnol. Ce début d'année a été très poussif, il a perdu tous les matchs qu'il a joué dans cette nouvelle compétition par équipe et par nation du début de l'année. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On n'a pas été surpris de le voir poussif dans un premier temps, puis blessé dans un second temps. On est quand même habitué maintenant de voir le physique de l'Espagnol lâcher le plus souvent, le plus régulièrement possible qu'avant. Et maintenant, on se pose surtout la question, est-ce que ce n'était pas son dernier match à l'Open d'Australie? Parce qu'il vieillit malgré tout, aussi fort soit-il. Et avec les blessures qu'il a, je pense qu'il va quand même uniquement se consacrer à la terre battue maintenant.
Le Marais. Justement, que ça, la terre battue, les internationaux de France, on le rappelle, hein, le tournoi du Grand Chelem qui est Roland-Garros, il n'y a que ça pour lui, décidément.
Il n'y a plus que ça, ouais. De toute façon, je crois qu'il s'est bien rendu compte dans le deuxième semestre de l'an dernier qu'il n'était plus capable de gagner ailleurs sur les grands tournois. Parce que ces champions-là, j'ai envie de te dire, gagner des petits tournois à droite à gauche, ça ne les intéresse plus. Ce qui l'intéresse, c'est de voir s'il peut ajouter un 23e titre du Grand Chelem à son palmarès. Il serait phénoménal, il est déjà le recordman, mais il a peur de Novak Djokovic qui pourrait vite revenir vers lui. Donc, tout son enjeu, c'est de réussir à continuer à amasser ces tournois-là, et je pense que le dernier endroit où il peut le faire, c'est Roland-Garros. Donc, je serais très surpris, très sincèrement, de le voir rejouer avant la terre battue.
Ouais. Le match est pour terminer. Ça te fait plaisir de revoir, justement, Djokovic du côté de Melbourne?
Ça fait plaisir, quelque part. Je crois que ça fait beaucoup, très plaisir à ses supporters australiens qui avaient été très déçus de ne pas le voir l'an dernier. Et je crois que ça va nous faire plaisir longtemps parce que il est très en forme. Il est le grand favori cette année. Hein. On sait qu'il n'était pas numéro un mondial l'an dernier, mais dû à des conditions un peu particulières et le fait qu'il n'ait pas participé à deux grands chelems sur quatre et que le troisième, c'est le seul qui l'ait gagné. Il a pas eu les points parce que Wimbledon n'a pris pas de points. C'est le numéro un officieux au classement et c'est l'ultra favori. Mais j'ai un petit clin d'œil à faire au joueur qui va rencontrer le prochain tour, qui est le petit Français qui vient de l'île Maurice, Enzo Cuoco. C'est un très bon garçon et qui a enfin gagné un premier match en Grand Chelem à 28 ans. Il va pouvoir se faire plaisir sur le plus grand terrain australien. Donc c'est surtout lui du plaisir, même si contre les locaux, ça risque d'être un peu compliqué.
Un grand merci, Louis-Marie, pour toutes ces belles infos concernant la planète tennis. À retrouver sur l'antenne de Beurre FM, notre consultant Louis-Marie. On va enchaîner avec, justement, allez, l'autre sujet. C'est le premier de cette émission avec le football amateur. C'est parti.
Time Sport. Il est pour parler.
Et pour m'accompagner ce soir, tout au long de cette émission, jusqu'à 21h, on aura Toto Bellozzo. Comment ça va, Toto Bellozzo?
Salut, Bilal, ça va et toi?
Ça va très très bien, Toto Bellozzo. Eh oui, le Paris Saint-Germain joue demain. du côté de l'Arabie Saoudite.
Incroyable match, hein.
Ouais.
On attend avec impatience.
Ah ben ouais, tu vas suivre de près, super, en tout cas.
J'adore.
C'est ça. Meshad, juste en face de Toto Bellozio. Comment ça va, Meshad?
Bonsoir, Eminem. Ça va?
Ah ouais, Eminem.
C'est ton nouveau Eminem. Centre. Je sais pas pourquoi tu veux pas l'institut.
Eminem, c'est Eminem avec.
Ouais.
C'est nul!
Voilà, c'est Yacine qui le disait hier.
C'est moi qui le disais hier.
Et aussi Yacine, non?
Non. Mais toi, tu m'as oublié dans cette.
Non. C'est vrai que tu l'avais lancé, mais c'est lui aussi qui t'a repris.
Parce que c'est vrai que. Voilà. Donc, tu es le Eminem de chez nous, quoi.
Et oui, le coach Tolé aussi.
De Wish.
Il fait partie. C'est un ami à Eminem. C'est le coach Tolé. Comment ça va, le coach Tolé?
Ça va très bien.
Ça va bien, le coach Tolé?
Impeccable. Ouais. Je devais être sur les terrains, mais. Les transports l'ont décidé autrement.
Ah ben oui, c'est la grève, faites attention. Il y a beaucoup les bouchons.
C'est ça.
Ouais, sur le périphérique parisien et aussi à travers la France. Hein. Ouais, Toto Bellozio, ça le fait sourire. Pourquoi? À cause des transports.
Non, je disais, ils ont bon dos. Parce que,
oui.
On va pas parler du métier que j'exerce en dehors de.
Aïe. On va pas le dire. On va pas le dire, Toto Bellozio. Un tout nouveau dans l'équipe. Émilien qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Émilien?
Ouais, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien.
Ça va bien?
Je vais très bien. C'est la première radio. Ça fait toujours plaisir de. Il y a une première fois à tout, mais.
Ah ben nous aussi.
Ça fait plaisir.
Il est bon, il a la gouaille. Il est bon, l'Émilien. Il est dans le jus, tranquillement. Émilien, justement, oui. Il s'est passé pas mal de choses dans cette équipe de France, dans cette fédération française de football. Un mot concernant peut-être ce renouveau à mettre en place où on a vu Aulas qui disait non, ben moi je suis pas trop d'accord. Si on doit tout refaire le COMEX, moi j'étais en total désaccord. Qu'en penses-tu justement de peut-être de revenir à des choses beaucoup plus simples, des nouvelles personnes, des nouveaux visages aussi au sein même de cette fédé.
D'un point de vue extérieur, ça semble beaucoup un melting pot. On sait pas vraiment qui tire les ficelles, d'où ça vient, d'où ça part. Quelles sont les mesures à prendre, quelles sont les on est assez perdu, mais si on essaie de se renseigner, on a plein d'informations, parfois on en a pas du tout et parfois on en a trop concernant les FFF, et quand on en a trop, c'est vrai que ça explose dans tous les sens, et je trouve que cette situation là elle reflète d'une incompréhension non seulement du public, parce que le public ne savait pas spécialement ce qui se passait à l'intérieur, donc ça choque, et aussi le fait que les choses ne sont pas structurées dans un sens où tout le monde va dans la même direction.
Ouais, Toto Bellozio, justement.
Ouais. C'est vrai que ce que souligne Émile, d'ailleurs je te rectifie, c'est pas Émilien, c'est Émile.
Émile, je sais pas pourquoi, ouais, c'est Émile. Ouais, je suis parti sur Émilien.
Les noms et les prénoms, hein,
Émile,
c'est vrai que
autant pour moi.
Le flou artistique qui a toujours été, pour moi, quasiment presque volontaire autour des institutions. Elle est pas nouvelle que le public s'y perde un petit peu entre qui fait quoi dans la fédération, parce que la tête de proue c'est Noël Le Graët, mais tout ce qu'il y a derrière Noël Le Graët, à un moment donné il va falloir aussi s'y intéresser, parce que moi j'ai comme l'impression, tu vois Bilal, que Noël Le Graët c'est un petit peu celui qu'on a mis à la tête de la FFF. Mmh. C'est l'ancien, c'est le mec qui va prendre la tête à personne, et que nous, en tout cas ceux qui sont derrière, seront quasiment jamais emmerdés. Et j'ai un petit peu l'impression de me dire que en dehors de Noël Le Graët, on n'a pas réellement de réel visu sur ce qui s'y passe, hormis les gros écarts du président. Et aujourd'hui, on les voit, ils sont clairs, ils sont nets, et on les a toujours vus. Maintenant, c'est ce qui se passe derrière, moi, qui m'intéresse. Et là-dessus, je rejoins Émile. C'est pas très très clair, c'est pas très très net. Il va falloir peut-être aller un peu plus en profondeur que simplement la problématique Le Graët, si on parle de la FFF.
Oui, Michel.
J'ai envie de dire, Jean-Michel, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, Jean-Michel. Tu peux pas te mettre en tête de proue de l'éviction de Noël Le Graët pour une semaine après faire machine arrière, parce que tu sens que ton poste est menacé ou que tes intérêts pour ton club et pour ton poste sont menacés. C'est quand même, c'est symptomatique de tout ce qui se passe au sein de la FFF, de tous les vices cachés qu'il y a au sein de la FFF. Et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Noël Le Graët, c'est un peu le grand-père qu'on déteste dans les repas et qui se permet de tout dire. Et que faire, quoi. Je veux dire, à part lui l'évincer tout le système qu'il a créé autour de lui et tout le système qui est là depuis des années.
C'est ça.
Je veux dire, à un moment donné, faut savoir dire stop, quoi.
Le coach de Tolé, concernant cette fédération française de football, on va en parler avec l'invité de ce soir. Hein. Je viens de rappeler.
Ouais, bah écoute, ça, tout a été dit, hein, comme le dit Meshad. De toute façon, c'est pas nouveau quand on s'intéresse un petit peu plus. Je le disais la semaine dernière, là on parle du football, mais ça concerne. Va voir du côté des autres fédérations dont on parle moins. C'est le même système, c'est le même problème. T'as toujours un président, mais t'as une équipe derrière, comme ça a été dit. Noël Le Graët n'est pas tout seul. S'il y a toutes ces histoires qui éclatent, c'est qu'il y a forcément une équipe derrière et tout le monde en fait se serre les coudes. Donc c'est un système qui est extrêmement compliqué. Je vous le disais la semaine dernière, c'est pas en le mettant en retrait que ça va changer. Faut changer même une mentalité en fait. Toute une mentalité, ça mettra pour moi une dizaine d'années. Hein. Mmh. Ça va pas se faire comme ça. Hein.
Bilal, ça tu sais que et c'est vrai. Juste, tu sais que quand un ministère, le ministre des Sports, n'est pas capable d'agir au sein de la Fédération française de football, c'est pour dire à quel point le pouvoir politique qu'il y a dans cette organisation est fort, quoi. C'est-à-dire que quand même le ministre des Sports, qui est censé être le supérieur de tout le monde, n'est même pas capable de prendre une décision et a demandé à ce qu'on se réunisse pour prendre une décision. C'est-à-dire, elle n'est pas capable de se dire, bah, on arrête, Noël, merci beaucoup. Donc à partir de là, ça démontre de beaucoup de choses, quoi. C'est un gros sac de nœuds. Je parle pas du Pokémon.
Après, moi, j'ai une lecture là-dessus, justement, sur cette façon qu'aurait la politique de s'ingérer, ou en tout cas l'État de s'ingérer dans les fédérations. C'est vrai que là-dessus, je suis un peu plus mitigé. Tu vois, à la limite, je préfère que l'État ne s'ingère pas totalement et qu'il n'y ait pas une mainmise sur tel ou tel sport, parce que après l'utilisation politique par exemple du football, elle pourrait être plus que utilisée, même si elle l'est. Quand on voit par exemple l'équipe de France en finale ou alors qu'elle gagne, ouais, t'as toujours le président qui essaye de récupérer, ouais, un petit peu, chose qui est un peu normale parce que tous les présidents du monde le font. Mm-hmm. Maintenant, de là à s'ingérer dans une fédération qui serait à leurs yeux mal gérée, ça pourrait être à double tranchant. Tu vois ce que je veux dire?
Sauf que Toto, moi, je parle pas du gouvernement dans son ensemble, ni du Premier ministre, ni du président. Je parle du ministère du sport.
Oui, mais le ministère, c'est pareil pour moi, tu vois.
Ouais, mais c'est le supérieur de Noël Le Graët. Donc, en fait, il a le droit de légiférer sur ces actions-là. En tout cas, quand c'est aussi grave que ça. Là, on parle d'un problème éthique. Le gars est condamnable. Parce que faut arrêter. Hier, on a parlé de présomption d'innocence. Il n'y a pas de présomption d'innocence, ouais, dans cette affaire-là. Et donc, lui, en tant que ministre des Sports, elle est quand même capable de dire, bah, on arrête là. Stop, quoi.
Alors, pas sur les problématiques de Zidane, des déclarations de Zidane, plus sur des problématiques qui ont été soulevées un petit peu avant, sur Zidane, je parle pas. Là-dessus, je te rejoins que d'un point de vue ministériel, on pourrait intervenir, on pourrait avoir son mot à dire sur des problématiques graves.
Exactement.
Qui a trait à la loi.
Exactement. Des problèmes judiciaires, quoi. Je le rappelle encore une nouvelle fois, hein, mais harcèlement sexuel avéré, c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Hein. C'est pas normal que Noël Le Graët ne soit pas du tout inquiété et qu'il se dise pas « je risque quelque chose quand même ». Il en a rien à foutre, le mec. Donc, ouais, à un moment donné, non, il faut pouvoir agir. Et on parle de Noël Le Graët, mais on parle de toute une organisation ici. Donc oui, il faut tout changer. Et ouais, même,
est-ce que ça concerne que des personnes qui évoluent au sein de la Fédé? Je suis pas sûr. C'est peut-être pour ça que c'est beaucoup plus complexe que ça aussi. Exactement. Je pense que ce sont des personnes qui, en général, quand tu es à ce niveau-là, qui ont un réseau extrêmement important dans différents milieux. Donc, je pense que ça va prendre pas mal de temps. Alors, peut-être que les têtes changeront, mais de là à avoir les vérités de ce qui se passe réellement, on les saura peut-être jamais.
De toute façon, tôt ou tard, la vérité, elle éclatera. Et
en 2052, peut-être.
C'est ça, non, mais ouais, après, je pense que c'est important que le ministère ait un droit de regard qui va reprendre la main au niveau de la fédération, parce que c'est comme aussi le président qui a un intérêt dans ça, et c'est pas possible qu'on le laisse à la tête de la fédération, Noël Le Graët. Là, c'est plus possible. Avec tout ce qu'il a comme casserole, si on le laisse, c'est se tirer une balle dans le pied, et c'est encore plus pour passer pour des ignares au niveau du monde.
Oui, Amel.
Bah, c'est vrai que cette réputation au niveau du monde entier, elle est quand même assez ternie ces derniers temps. On parle même jusqu'au Brésil, jusqu'en Amérique du Sud, même les Argentins se moquent un peu des Français. Au lieu de s'occuper de nous, occupez-vous de votre fédération. Il y a eu beaucoup de journaux qui se sont intéressés à ça, et c'est vrai que partout dans le monde aujourd'hui, on est au courant de ce qui se passe, et ça, c'est pas terrible.
Bah, c'est vrai que
c'est pas terrible.
On a tendance à entendre des histoires de ce type, voire plus graves ou pas, au sein de fédérations d'Amérique du Sud, du continent africain, par exemple. Donc ça, là, ça touche la France, donc c'est un impact différent, mais ouais, faut que les autres fédés restent tranquilles aussi à travers le monde, parce que voilà, des histoires comme ça, malheureusement, t'en trouves dans beaucoup, beaucoup de fédérations.
Et c'est une succession de faits, hein. C'est une succession de faits sur du racisme avéré, assumé, sur du harcèlement moral, sur du harcèlement sexuel. Tiens, à un moment donné, stop, quoi. Faut arrêter. Ouais.
Bon, restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On va revenir avec notre invité, qui n'est autre que Eric Thomas, le président de l'AFA.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Toto Bellozzo. Il y a Emile aussi pour sa première, sans oublier Meshad et notre coach Tolé, le 01 53 48 3000, pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. 20h, 21h, allez, place à l'invité de ce soir.
Time Sport. The Special One, The Special One. The
Monsieur special Eric one. Thomas, justement, le président de l'Association française de football amateur, l'AFA. Bonsoir Eric, comment allez-vous ?
Bonsoir, très bien, merci de votre invitation.
Ah ben merci à vous, justement, de cette disponibilité afin de répondre à nos questions. On va commencer hein, aujourd'hui, c'est vrai que le football français est dans la tourmente d'une certaine manière, Eric.
Bah surtout la fédération, parce que les équipes de France vont pas si mal. Hein. On est vice-champion du monde chez les garçons, le football féminin est attractif. Hein. Donc la vitrine est plutôt belle et attire plutôt les jeunes garçons et les jeunes filles. Vont, j'espère, pousser la porte des clubs, ce qui ne fonctionne plus du tout. Et nous, on le dénonce depuis maintenant plus de 10 ans. C'est la Fédération française de football, c'est ses organes déconcentrés, hein, les ligues notamment. Il y a beaucoup d'argent tout en haut, il n'y a plus beaucoup d'argent, il n'y a plus du tout d'argent tout en bas dans les clubs. C'est là où on fait pousser des jeunes footballeurs et c'est là où on prélève énormément d'argent dans les clubs. Et en 11 ans, la durée de mandat de Noël Le Graët, on est passé de 19 000 clubs amateurs à 13 000 clubs amateurs. On a perdu 6 000 clubs, particulièrement dans le monde rural. On a perdu 6 000 clubs amateurs en 11 ans. C'est véritablement une catastrophe pour le football français, hein, pas que le foot amateur, parce que les internationaux, nos bleus, sont tous formés dans un club amateur, sans exception.
Ouais. On poursuit avec Toto Bellozzo, Eric Thomas, notre invité ce soir. On t'écoute.
Alors, ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'on aborde le sujet de la FFF à travers le prisme du football amateur. Parce que ce dont on a souvent oublié, au travers, quand on parle de la Fédé, quand on parle de Noël Le Graët, on parle très souvent, voilà, c'est la vitrine équipe de France. Alors qu'en réalité, quand on est président d'une fédération, on est le président de tous les joueurs, et y compris ce monde amateur qui a souvent été, finalement, oublié. Qui est football amateur, qui représente la grande majeure partie, si ce n'est la grande majorité des joueurs de football en France. Et moi, justement, la question que j'ai à vous poser, c'est vous, en tant que organe de représentatif du football amateur, quelles ont été jusqu'à maintenant les relations que vous avez eues avec la Fédé? Est-ce que la fédération vous reconnaît? Est-ce qu'il y a un dialogue qui est ouvert ou vraiment vous vous sentez un petit peu mis à l'écart?
Oh bah, il y a aucun dialogue. Hein. On est une association libre et indépendante. C'est important de le dire parce qu'on est en aucun cas en relation avec la fédération. Mais il y a aucun dialogue, il y a aucune discussion, il y a aucune concertation entre la fédération et ses dirigeants bénévoles, entre la fédération et les clubs. Les décisions, elles descendent, elles tombent de tout là-haut et elles s'appliquent tout en bas aux bénévoles, aux éducateurs anonymes du football. Et c'est ça qui est terrible. Il devrait y avoir au moins un dialogue et une concertation quand il s'agit de prendre des décisions. Or, la fédération, on décide de tout, tout seul et tout le temps, sans véritablement d'égard pour ceux qui font vivre le football au quotidien. Je rappelle que le football, c'est une mission de service public qui est assurée quasiment 7 jours sur 7 par des bénévoles. Et là, ce qu'on a vécu ces derniers jours, moi j'allais dire ces dernières années, parce que malheureusement, Monsieur Le Graët n'en est pas à son coup d'essai. Ce sont des attaques récurrentes contre les valeurs du sport. Donc c'est sans doute la phrase de trop contre Zidane qui ont déclenché dans la foulée un tweet de Kylian Mbappé et qui ont mis en émoi non seulement le ministère des Sports, mais l'ensemble du monde du football. Parce qu'on ne peut pas considérer la Fédération française de football si on ne considère pas mieux et plus les clubs amateurs qui font un travail remarquable, qui sont les premiers artisans des deux étoiles qu'on a sur les maillots d'équipe de France, par exemple.
On poursuit avec toi, Meshad.
Oh non, donc en fait, alors, le mec n'est même pas bon dans son travail. Non seulement il a toutes ses casseroles, mais en plus il n'est même pas bon dans ce qu'il fait au quotidien. En fait, ça rejoint la question que je voulais vous poser. Bonjour monsieur, c'était est-ce que vous êtes satisfait finalement des années de mandat de Noël Le Graët, et si c'est pas le cas, qu'est-ce que il faudrait améliorer pour faire en sorte que le football amateur soit valorisé à la hauteur de son importance, quoi?
Bah, je pense que la réponse est dans la question. Franchement, il n'y a pas grand-chose à sauver du mandat de Noël Le Graët et de son équipe, hein, parce que le comité exécutif, le COMEX, comme on dit, ils ont tous été élus sur la même liste. Et quand je dis élus, c'est un bien grand mot. En fait, tous ces gens, toute cette équipe, ont été désignés. Parce que pour être élu, il faut quand même un certain nombre de votants. Or là, c'est un entre-soi. 216 grands électeurs. Imaginez, 216 grands électeurs censés représenter 2 200 000 licenciés. Donc, ce qu'il faut changer, c'est véritablement ce qu'on appelle, nous, de nos voeux depuis 12 ans, c'est une véritable démocratie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à la Fédération française de football, où aujourd'hui, les 40, 43, 44 clubs professionnels disposent de 37% des voix, et où les 13 000 clubs amateurs ne dispose d'aucune voix. Voilà le tableau aujourd'hui de la Fédération française de football. C'est-à-dire que on emmène les grands électeurs à la Coupe du Monde. Moi, je l'ai vu, hein, que ce soit au Brésil, en Russie et récemment au Qatar, avec femmes, enfants et plus si affinité. C'est-à-dire que cet argent, il est dépensé, il vient du foot d'en bas et il sert à inviter dans des conditions de confort extrême, avion, hôtel, repas, voilà où passe l'argent du football français, et c'est pour ça qu'on demande la démocratie, parce que si on a la démocratie, on aura la transparence, et on pourra mettre fin à cette gabegie d'argent qui vient du foot d'en bas, je le rappelle.
Alors, ouais. C'est super intéressant, parce que c'était là-dessus que je voulais rebondir.
Alors, Toto Bellozio.
Si on parlait de restructuration ou de révolution en profondeur dans l'organisation de la fédération, justement, je pense que ça part du mode de scrutin. Alors, est-ce que vous militez pour, quand vous parlez de démocratie dans le football, est-ce que vous militez pour une licence enfin un licencié de plus de 18 ans égale une voix pour le président de la Fédé? C'est-à-dire que vous aimeriez, tout comme dans une démocratie à l'échelle d'un pays, d'avoir des votants licenciés qui pourraient choisir son président?
Alors, on peut imaginer qu'effectivement les licenciés majeurs, mais pourquoi pas à partir de 16 ans, puissent voter un jour. Mais je pense qu'il faut des étapes. Il faut aller progressivement, passer de tout à rien, ça ne fonctionne jamais vraiment. Je pense que dans un premier temps, et il y a une loi qui a été votée dans la dernière législature, qui impose que les clubs amateurs constituent 50% du socle électoral dans toutes les fédérations françaises. Donc c'est là, je pense, une véritable étape et un progrès important. Moi, je pense que les 13 000 clubs amateurs devraient disposer d'un nombre de voix en fonction du nombre de licenciés. Je vais faire simple, hein. Vous avez moins de 100 licenciés dans un petit club de campagne, vous avez une voix, et puis vous avez un club de 400 licenciés, vous avez 4 voix. Voilà, une voix par tranche de 100 licenciés. Comme ça, c'est représentatif. Et on passe d'un seul coup de 216 grands électeurs à 14 216 grands électeurs, c'est-à-dire qu'on ajoute les 13 000 clubs amateurs multipliés par le nombre de voix au ratio du nombre de licenciés, et là vous avez une vraie démocratie. Je pense que c'est une étape indispensable, en tout cas, c'est l'étape qu'impose la loi et qui s'impose à la Fédération française de football, oui. Et qui n'a été absolument pas travaillée au moment où on se parle. Hein. C'est-à-dire que cette loi, elle a un an et demi. La fédération fait comme si elle n'existe pas. Elle a transmis une série de questions à la ministre des Sports en attendant le plus tard possible que cette loi s'impose à la Fédération française de football. Et c'est tout l'enjeu. Une fois qu'on aura l'audit, diligenté par madame la ministre des Sports, c'est de mettre en place, de mettre en œuvre le plus vite possible, dès cette année, cette loi qui fait des acteurs du football français de véritables citoyens, parce que demain, ils vont avoir un droit de vote, et ils vont dire, tous les 4 ans, moi, le meilleur projet pour le football français, c'est celui-ci, et c'est pour celui-ci que je vais voter.
Pour moi, enfin, à titre personnel, je trouve qu'il n'y a pas de vraies révolutions qui se font par échelon. C'est soit on casse les codes et on revient sur quelque chose de totalement nouveau. C'est pour ça que moi, j'aimerais vraiment qu'on aille beaucoup plus loin dans cette réflexion concernant le scrutin et d'avoir un licencié égale un vote. Et là, on est non pas sur on s'approche d'une démocratie, mais on serait sur une vraie démocratie.
Ouais.
Maintenant, pour le coup, moi, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'était, dans les faits, qu'est-ce que vous comptez mettre en place justement pour que ces choses-là passent de d'idées à réels projets à proposer?
On n'est pas inactif hein, sur ces sujets-là. Hein. Vous avez vu qu'on a été les premiers à demander la démission du président de la 3F. Hein. Moi, on ne l'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Donc là, on a estimé que là, le président Le Graët était allé beaucoup trop loin. Et puis tout ce qu'on apprend, ce qu'on sait déjà aujourd'hui, je pense que son retour à la tête de la Fédé n'est plus envisageable. Je pense que ceux qui travaillent avec lui...
Avant, alors que vous saviez tout ce qui se passait, quoi. Pourquoi pourquoi le déclic, c'était sur des déclarations sur Zinedine Zidane qui n'étaient pas, moi je le répète, en soi si grave que ça. Je veux dire, je pense qu'en tant que président de la Fédé, il a le droit de dire que il voulait prolonger Didier Deschamps et que donc du coup, si Zinedine Zidane l'appelait, c'était pas si grave. Moi, je veux juste savoir pourquoi est-ce que c'est cette phrase-là qui fait réagir Kylian Mbappé, qui fait réagir les membres du COMEX et d'autres, et pas toutes les histoires que l'on sait et que vous savez depuis des années sur Noël Le Graët.
Alors, nous, ça fait 12 ans hein, qu'on se bat, et on est les seuls. Hein, on est les seuls opposants aujourd'hui au système qui a été mis en place à la Fédération Française de Football. Vous pouvez regarder depuis 12 ans les déclarations de l'AFA. On est extrêmement critique, mais on est toujours force de proposition. Hein. Par exemple, exemple très simple, on dit que la Ligue de football amateur, aujourd'hui, c'est une coquille vide. Il faut qu'elle devienne l'alter ego de la Ligue de football professionnel, avec des véritables moyens d'action, un budget, il n'y en a pas, avec une personnalité morale, une autorité juridique, il n'y en a pas aujourd'hui. C'est une coquille vide, la Ligue de football amateur. Donc, vous pouvez dire, comme le fanfaronne, la fédération, vous vous rendez compte, c'est historique, on a dépassé les 100 millions d'euros en direction du foot amateur. C'est totalement faux. On a sans doute aidé beaucoup les ligues et les districts, mais nous, ce qu'on demande, c'est plus que les 14 millions d'euros du fonds d'aide au football amateur qui cible les clubs amateurs. 14 millions, c'est rien. Hein. Quand on sait tous les besoins en terrain, en équipement, en dotation, en minibus, dont ont besoin les clubs amateurs. Ça fait 12 ans, nous, qu'on est dans la seule force d'opposition, Manuel Le Graët. Hein. Moi, j'ai entendu personne, hein, jusqu'à maintenant, hein, s'exprimer.
On a profité
de cette opportunité-là, je le dis clairement. Okay. C'est, si vous voulez, la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Parce que on avait accumulé tellement... et puis, il faut dire les choses aussi. Hein, je suis là pour être complètement transparent. Noël Le Graët était protégé au plus haut sommet de l'État, par le président de la République. Ouais. Voilà, c'est un fait, c'est acté. Noël Le Graët avait négocié le maintien de la maternité de Guingamp en direct avec le président de la République. Mais nous, on a dénoncé tous ces travers, tous ces faits. On était les seuls à le faire.
Non, mais c'est vrai,
personne. J'ai entendu aucun international au moment où nous, on mettait les mains dans le moteur, prendre position.
Bien sûr.
Oui. Thomas, je me permets.
Alors, Toto Bellozzo, vas-y.
Par rapport à ce que souligne
Eric Thomas, président de l'AFA.
Fait déborder le vase me paraît insignifiant par rapport au reste de tout ce qu'il y a dans le vase. Mais cette goutte-là, elle est nécessaire. Mais moi, ce que je veux savoir, pour aller plus loin justement dans vos propos, est-ce que à l'avenir, s'il y a demain une nouvelle élection, est-ce que vous allez soutenir une candidature? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un candidat en tant que organe indépendant? Est-ce que vous souhaitez soutenir un candidat plus qu'un autre?
Écoutez, on verra le moment venu. Aujourd'hui, il y a un COMEX qui, à mon avis, devrait collégialement démissionner.
Oui, non, mais en tant que association de football amateur, est-ce que
le COMEX doit démissionner?
Non, mais bien sûr. Alors attendons l'audit hein, qui à mon avis sera complet, je l'espère, sur le fonctionnement et les travers de la Fédération française de football. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, il n'y a pas un candidat qui s'impose à l'évidence pour prendre la Fédération française de football et faire avancer enfin le football français sur ses deux jambes. Le football pro, il n'a pas trop besoin de la Fédé. Il a plutôt bien géré, même s'il y a eu des gros coups de difficultés avec la crise sanitaire, l'arrêt des championnats, puis Média Pro, mais c'est le football amateur aujourd'hui qui a besoin d'un soutien massif pour que le football enfin travaille main dans la main, foot amateur, foot professionnel. Le foot amateur y est prêt. Est-ce que le foot professionnel y est prêt? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je vois pas de candidat incontournable qui puisse fédérer les amateurs et les professionnels.
Allez, rapidement, avec Toto Balazzo et Emile, pour terminer avec Eric Thomas, notre invité.
Forcément de candidat à soutenir. Est-ce que peut-être que vous, vous seriez un prétendant à au moins être le représentant du football amateur
et, ouais, et il connaît bien en plus.
De vous présenter à la future élection?
Ben, nous, on a l'expérience, si vous voulez. On s'est présenté à trois reprises, en 2011, en 2012 et en 2017. Évidemment, on savait qu'on n'avait aucune chance puisque le système était totalement verrouillé. Et nous, on pouvait se présenter, mais on pouvait pas voter. Donc, moi, ce que je demande, enfin, c'est que les présidents de club puissent voter. Si demain c'est le cas, il faut qu'on travaille ces sujets. L'autre proposition que j'avais faite et qui, à mon avis, est une solution de bon sens, c'est que quand un jeune joueur devient professionnel, eh bien, qu'on reconnaisse le travail qui a été fait dans le club amateur dès la première licence signée. Oui. À l'âge de 5 ans ou 6 ans, le gamin il va dans le club du quartier, il va dans le club rural. Eh bien, ça, c'est pas reconnu. On ne reconnaît la formation qu'à partir de 12 ans. Tout le boulot qui a été fait de 5 ans à 12 ans, il passe totalement aux oubliettes. Donc voilà, mais des propositions, on en a fait plein. Elles n'ont évidemment jamais été reprises par la Fédération française de football. Imaginez que des amateurs puissent enfin éclairer la fédération d'un jour nouveau. Mais moi, ce qui compte, si vous voulez, c'est pas les hommes, c'est les projets. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est demain, si je veux dire Zinedine Zidane, Michel Platini ou Monsieur le président d'un obscur club amateur a un projet qui me fait rêver, me fait envie et que je me dis que c'est le projet idéal pour le football français, et ben je voterai pour ce projet-là. Avant de parler des hommes, encore une fois, ou des femmes, parce que là c'est quand même aussi un problème d'hommes et de femmes, entre le président de la fédération et sa directrice générale. Je suis quand même désolé que la plus grande fédération en arrive à ces extrémités-là. Une fâcherie entre le président et sa directrice générale, c'est quand même ça le sujet de fond. Non, ce qui compte, c'est les projets d'avenir, ceux qui vont faire avancer enfin le foot amateur, qui vont donner une bouffée d'oxygène et surtout l'espoir. Parce que le nombre de bénévoles que je rencontre qui sont là, qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, qui sont découragés par une fédération totalement absente, qui ne cesse d'inventer de nouvelles amendes disciplinaires, Il faut que ça s'arrête. Et je crois que c'est le moment. Voilà. Il faut que retrouver de l'espoir et retrouver des projets.
Rapidement, avec Émile.
La dernière. Que je vais vous poser, Monsieur Thomas, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que il y a en effet les clubs qui sont passés en 10 ans de 19 000 à 13 000 quasiment, si je retiens bien vos chiffres. Et je voulais savoir qu'est-ce qui se passe en gros par rapport à toutes ces infrastructures qui vont être laissées, délaissées, et s'il y a une dette publique par rapport à ça, et quelles pourraient être les idées ou les innovations qu'on pourrait faire, parce que c'est quand même des structures qui ont été construites, et si elles sont à l'abandon, bah forcément ça augmente une dette publique.
Alors, pas forcément une dette publique. Vous savez, en France, toutes les installations sportives, à 99%, elles appartiennent aux villes. Je crois qu'il y a deux clubs professionnels en France dont les stades appartiennent aux clubs. Je crois que c'est Auxerre et Lyon, récemment, le grand stade de Lyon. Après, souvent, ce sont des clubs qui s'arrêtent dans une commune rurale. On a tenté de s'entendre avec le club voisin à quelques kilomètres. Et puis, vous savez, le monde rural, aujourd'hui, il souffre énormément. Donc, c'est le bar qui ferme, c'est la dernière classe de l'école, et puis c'est le club qui éteint les lampadaires le soir parce qu'il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus d'argent. Comme l'autre chiffre que je voulais donner, c'est on puise quand même 150 millions d'euros par an dans les caisses des clubs amateurs en France. C'est-à-dire que les clubs amateurs, ils peuvent recevoir 14 millions d'euros avec le FAFA, le Fonds d'aide aux foot amateurs. 14 millions, et on leur prend 150 millions d'euros avec les amendes, j'en ai parlé, les inscriptions des équipes, vous payez quand vous inscrivez vos U12 en championnat départemental ou vos U14 en championnat régional, les cotisations licence que vous faites remonter, les frais d'arbitrage, tout ça, chaque année, c'est plus de 150 millions d'euros, c'est plus de 70 euros par licencié. Donc ça, il faut retrouver
des chiffres impressionnants.
Un cycle positif et dynamique. Il faut arrêter de puiser dans les
Merci.
Clubs amateurs.
Merci Eric Merci. Thomas, président, je le rappelle, de l'Association française de football amateur, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM et d'avoir aussi répondu à nos questions. Un grand merci.
Merci.
Une très
merci
belle soirée. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On revient rapidement avec le Paris Saint-Germain et sans oublier aussi la NBA.
Time Sport revient dans un instant. 20h-21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h37, toujours en compagnie de toute l'équipe de Time Sport. Emile, pour sa première avec Toto Bellozzo, Meshad et sans oublier le coach Tolé. Allez rapidement avec toi Meshad, avant de prendre le chemin pour l'Arabie Saoudite.
Ouais, rapidement, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit parce que je suis atterré par, par les propos de notre invité. Il a quand même dit que Emmanuel Macron était au courant de... Enfin, notre président de la République française était au courant de toutes les affaires, et je trouve que ça fait beaucoup entre Noël Le Graët, Darmanin, Nicolas Hulot. Je veux dire, faut se... je sais pas, visiblement, il y a un problème de positionnement sur le harcèlement moral et sexuel chez cet individu, qui est quand même notre président. Et je trouve ça fou que ça se sache, encore une fois. Donc maintenant, c'est bon. En fait le témoignage, là, il est précieux, parce qu'il il dénote que ce que l'on dit depuis des semaines, c'est pas juste de la spéculation. En fait, c'est des vraies choses que l'on sait, parce qu'on a des sources aussi. Et quand un mec... président du football amateur est capable de dire que le président était au courant de tous les agissements d'un pervers notoire. Je sais pas, moi ça me désole et ça me rend très triste.
Voilà. Ouais. Emile, toi aussi, le coach de Tolé, aussi.
Ça ressemble surtout à un tremblement de terre avec des immeubles qui restent sur place. On a l'impression que rien ne va bouger malgré qu'il y ait des secousses impressionnantes. Et c'est vraiment frustrant comme ressenti que j'ai en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Ouais, allez.
Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je suis aussi dans l'étonnement de savoir que, bah, finalement, tout se sait, mais voilà, tout reste enterré, rien ne bouge spécialement. Là où je suis un peu plus étonné, c'est que justement, quand on a des acteurs comme on vient d'avoir, Eric Thomas, qui est président d'une fédération, enfin d'une association certes indépendante, mais qui pour moi il va un petit peu avec demi-mesure, avec des idées peut-être un peu trop politiciennes, enfin intéressées politiquement, footballistiquement intéressées. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille beaucoup plus en profondeur, mais avec alors, des actions choc, pas des actions violentes, hein, évidemment, mais des prises de décision nettes, des prises de position nettes, et des actions qui vont réellement faire changer les choses.
Merci.
Parce que si tu changes de président pour avoir la même chose, une autre tête à la place, avoir les mêmes agissements, ça sert à rien. Ça sert à rien.
Rapidement.
C'est le système. Je l'ai dit avant. Hein. Malheureusement, le football génère tellement d'intérêt, tellement d'argent que forcément, ça intéresse des personnes qui sont en dehors du milieu du football. Donc, voilà, il nous l'a dit. C'est malheureusement pas étonnant. C'est pas étonnant et c'est tout un système. C'est extrêmement compliqué, hein, le monde du football.
Il y a un vrai problème avec le harcèlement.
On en connaît malheureusement qu'un
vrai problème en France avec le harcèlement.
Dixième, ouais. Et c'est un vrai problème en France, mais bon, malheureusement, je crois qu'à certains niveaux, ça.
Time Sport. La parole des sociaux.
Excusez-moi, le code de Tolé, excusez-moi, Emile, hein, parce que là, on met beaucoup trop de temps. Désolé, messieurs, désolé. Le harcèlement, bien sûr, c'est un long sujet, mais nous aussi, il y a un autre sujet qui nous attend parce qu'on a des aficionados concernant le Paris Saint-Germain, mais pas que. Aussi, CR7. Eh oui, on doit aborder pas mal d'actualités ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Ne serait-ce que, on a un consultant qui se retrouve du côté de l'Arabie Saoudite, qui n'est autre que Nasser. Bonsoir, Nasser. Comment ça va?
Oui, bonsoir à tous.
Ça va, Nasser?
Ça va, écoute, grosse journée avec, bien sûr, il y a eu aussi la Super Coupe d'Italie avec ces deux grandes équipes italiennes qui se sont retrouvées dans la même ville, l'Inter et le Milan AC, au milieu de ses supporters. Donc c'était assez sympa et enrichissant. Beaucoup de monde qui afflue ici dans cette grande ville de Riyad. On attend demain un stade à guichet fermé, hein, pour cette rencontre. Et puis, vous l'avez vu aussi dans la presse, hein, on devient un peu fou. Il y a des gens qui mettent 2 millions d'euros pour s'offrir une place aller prendre une photo
d'affaires saoudien
avec CR7 et Léo Messi.
C'est vrai. On rappelle, hein, c'est une sélection entre Al Hilal et Al Nasser. Demain, c'est le Riyad FC. Voilà, on peut le nommer comme ça, quoi. C'est sur l'All-Star, quoi. C'est la sélection des meilleurs joueurs saoudiens face au Paris Saint-Germain demain 18h.
Foire française, hein, c'est bien ça. Oui, Nasser Issoura, en plus.
C'est ça, 18.
C'est la sélection, oui. Ouais, il y a c'est CR7 quand même dedans. Il y a d'autres joueurs aussi. Un ancien Marseillais, en plus. Tu le regarderas, le match. Le coach Tolé. Bien sûr.
C'était à l'Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo, avec Luis Gustavo, je voulais
dire. Ouais, c'est ça, exactement. Gustavo aussi. Exactement, Emile. Nasser, on l'écoute.
Oui, en fait, le coach Galtier prend le match très très au sérieux demain, même si c'est qu'une exhibition. Une défaite pourrait aussi pour lui être un petit peu difficile à digérer après ses deux défaites en championnat contre Lens et contre Rennes, je vous le rappelle. C'est pour cette raison que demain soir, il faudra quand même malgré tout montrer son territoire et aussi pour que cette tournée du golf soit bien passée, rentrer à Paris dans la nuit, se dire voilà, avec ce groupe, aller loin, aller jusqu'à déjà aller battre le Bayern de Munich, car c'est l'objectif prioritaire du Paris Saint-Germain demain soir.
Ouais.
Nasser, pardonnez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, la vérité c'est que tout le monde en a rien à foutre de ce match. Enfin, soyons non mais disons les choses clairement. Ça embête tout le monde. Galtier n'a pas envie de le faire ce match, c'est ça la vérité.
C'est pas ça la vérité,
Bilal.
Non, c'est pas ça la vérité. Moi je vais rentrer en contradictoire, en contradiction plutôt avec toi. Non mais vraiment, je suis sérieux. Je suis très sérieux.
Moi je pense que t'es professionnel, t'as une échéance qui arrive, qui est la Ligue des Champions. Exactement. Tu te plains depuis le début de l'année du calendrier infernal que tu as, et par contre tu fais un déplacement en Arabie Saoudite pour faire une exhibition contre des All-Stars qui ont entre 35
Mais pas mal de clubs le font. Les clubs espagnols, les clubs italiens l'ont fait, et là aussi les clubs français.
Bilal, pourquoi il y a que Paris, qui se met dans des situations comme ça? Ça se passe chez Bayern, chez Manchester City, chez Manchester United, chez Arsenal. En fait, ce match, c'est la preuve que dans ce club, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est pas normal de faire un match d'exhibition alors que tu as une échéance comme le Bayern de Munich qui arrive dans quelques jours.
Alors, Nasser, allez, pour répondre à mes chats.
Nasser, excuse-moi.
Non, mais moi, je vais pas polémiquer ce soir, juste pour dire à notre ami consultant qui est autour de la table que les plus grandes équipes européennes se sont trouvées ici à Riyad. Ouais, le berceau du monde du football s'est trouvé à Riyad. Le monde a les yeux rivés à Riyad, en Arabie Saoudite. Je vous rappelle qu'ils préparent éventuellement la Coupe du Monde 2030. On a eu le Real Madrid et le FC Barcelone qui se sont affrontés il y a quelques jours. Ce soir, c'était l'Inter face au Milan AC. Vous comprenez bien que, ils veulent les meilleurs et en fait, ils les ont. Et ça fait plaisir aussi.
Ouais, ça fait plaisir. Bon, là, il n'a pas tort, le Nasser. Hein,
ils ont l'argent.
Ah, ben oui, ils ont l'argent. Le PSG a l'argent et ils ont les meilleurs joueurs du monde. C'est contre l'argent aussi. Si on donne un billet de 500 millions aussi à Lyon, tu vas faire quoi aussi?
Non, mais moi, je suis président de club.
Je vous rappelle que. Je vous
rappelle. Non, mais Méchad, attends. Tu peux aller même en Islande ou à Pétaouchnok, mais.
Il faut savoir discerner les choses.
Ouais,
ce que Méchad soulève, c'est la politique.
Mais moi, je soulève le sportif. Je m'en fous de la politique, justement. Toto Bellozzo, je vais te laisser enchaîner. Vas-y.
Ce que Méchad soulève, c'est la politique sportive du Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
En son sens, je ne vais pas faire le traducteur parce que c'était très clair ce qu'il a dit, qui, en son sens, au vu des échéances sportives très importantes qui attendent le Paris Saint-Germain, en l'occurrence. Un match contre le Bayern de Munich, qui va être un match couperet pour le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est le bon moment? Et faire le discernement avec la volonté qu'a actuellement l'Arabie Saoudite d'attirer le football mondial et quelque part aujourd'hui, sans faire de mauvais jeu de mots, actuellement, l'Arabie Saoudite, c'est un peu la Mecque du football. Hein, entre la Supercoupe d'Espagne, entre la candidature qu'il y a.
C'est pour cela qu'ils se sont pointés là-bas.
Il y a deux choses différentes. Cette politique-là, la politique de l'Arabie Saoudite, elle n'est pas critiquée par Méchad. Personne ne la critique ici. Ce qui est critiqué, c'est le choix du Paris Saint-Germain de se dire en plein mois de janvier, juste après une Coupe du Monde, au moment où on a besoin de redémarrer, est-ce que c'est un bon choix? On peut encore se poser la question. Est-ce que c'est un bon choix par rapport aux échéances européennes du Paris Saint-Germain?
Ouais. On n'aura parlé que des choix. Désolé, Nasser.
En fait,
moi, j'aurais voulu parler de CR7.
En fait, je suis d'accord.
C'est aussi de Messi face à. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais plutôt sur le plan sportif. Et désolé, on parle plutôt de géostratégie, mais bon, les temps qui courent, c'est vrai qu'on a des guerres et tout, malheureusement.
Non, mais de toute façon, il faut bien que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent ce soir, sachent que chaque année, à Riyad, il y aura la Supercoupe d'Italie pendant au minimum 4 à 6 ans. Donc, elle a été rachetée pour plus de 100 millions d'euros. Et 23 millions d'euros chaque année. Vous comprenez bien que la Supercoupe d'Italie ira du côté de Riyad. Et il y a la Supercoupe d'Espagne aussi qui ira à Riyad. Et puis, bien sûr, on aura bien dans pas longtemps, j'en suis certain même, que le trophée des champions se passe du côté de Riyad, par exemple. Ouais. Voilà.
Ouais. Moi, je voulais savoir un mot sur l'ambiance là-bas que tu as pu peut-être voir entre les supporters parisiens, s'il y en a, et les autres.
Alors, pour info, j'ai pas croisé de supporters parisiens. Des Français, j'en ai pas croisé beaucoup. J'ai plutôt croisé des Italiens. Il y en avait à peu près 1000 qui sont arrivés hier dans la nuit. 500 du côté de Milan AC, 500 du côté de l'Inter pour encourager leur équipe. Et le reste des supporters, ce sont des aficionados de Saoudiens ou de la région du Golfe qui viennent, des gens qui ont un certain niveau de vie assez conséquent et qui viennent se faire plaisir pour regarder des grands joueurs, des grands champions se retrouver ici à Riyad.
Serge, justement, les critiques venant de partout, quoi, concernant surtout de France, l'entraîneur du club de la capitale, qui est Monsieur Galtier, vous en pensez quoi, alors, là-bas? Il fait allusion, il fait attention, justement, à tout ça. Alors, comment se comporte-t-il, Galtier, ou peut-être les réactions de l'entraîneur parisien?
Il se comporte comme quelqu'un qui doit absolument prendre des résultats après deux défaites. Il le sait que l'échéance arrive bientôt. Il faut qu'il prépare son équipe. Je pense que ce déplacement dans le golf, et on en discutera demain matin avec le coach à l'hôtel pour savoir un petit peu son ressenti. Et on l'aura aussi sur Time Sport et Beurre FM après le match pour avoir ses réactions. Je pense qu'il est en train de faire un groupe pour pouvoir aller jusqu'au bout. De toute façon, il n'a pas le choix, il le sait, et ça passera par une victoire face au Bayern, à l'aller comme au retour, et sinon, sa place sera menacée. Il le sait, de toute façon. Donc, il doit absolument former ce groupe, et je pense que ce voyage dans le golf permet aussi aux joueurs de se retrouver, de discuter, de travailler les mécanismes, notamment ce soir, l'entraînement qu'il y a eu à Doha, devant plus de 30 000 spectateurs. Vous imaginez 30 000 spectateurs pour une séance d'entraînement. On ne l'a pas vu en France, on le voit à Doha, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que le football français, malgré tout, et même s'il est décimé, je trouve qu'il rayonne dans le monde. On parle beaucoup du Paris Saint-Germain. Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir cette équipe du PSG être vue à l'entraînement devant 30 000 spectateurs.
Emile, le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain, c'est l'illusion rêvée du foot français. C'est clairement ça. Avec toutes ces stars, ça nous change un peu le regard. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des stars internationales un peu partout dans, de toute façon, je trouve que ça fait une belle vitrine quand même, une belle vitrine, et il faut toujours regarder le football avec les yeux d'un passionné, donc d'un enfant qui apprécie, quoi.
Ouais, c'est dans un mois à peu près le match, face au Bayern de Munich, c'est ça,
Ouais, mais faut pas se mettre trop de pression.
Oui, du côté de Munich.
Ouais.
Nasser, on a une idée de l'état de forme de Cristiano Ronaldo, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a envie de jouer ce match, est-ce que tu peux nous dire un peu plus?
Ah oui. Ici, tout le monde est fan de Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, il s'est séjourné dans le même hôtel que l'Inter jusqu'à il y a encore quelques jours. Et d'après d'après même les locaux, Cristiano Ronaldo demain devrait déjà être titularisé, capitaine de cette équipe, mais en plus amener son équipe à la victoire, parce que l'objectif c'est de montrer aux yeux du monde qu'il est toujours là et bien là. Et Cristiano, vous le savez, c'est un grand champion. On devrait voir une belle partita, comme dirait Toto Bellozzo, une belle partita. Voilà.
Justement, moi, en interne, j'ai eu quelques échos concernant Cristiano Ronaldo. Il est apparemment très 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 content d'être au sein de cette équipe. Ça a l'air d'être une réalité. C'est qu'il s'est mis à la hauteur du reste de l'effectif sans trop de caprices.
Oui, c'est ça. Et puis, il faut ici, on parle beaucoup de cette Saudi Pro League qui est en train de monter. Ils veulent racheter encore beaucoup de joueurs. Ils veulent d'ici 2030 avoir, même avant 2030, avoir un championnat qui existe en Europe. Et justement, il y a même des Européens qui veulent racheter les droits de cette Saudi Pro League. Donc, en fait, il y a encore de l'espérance ici en Arabie Saoudite.
Un grand merci, Nasser, pour toutes ces informations. On suivra de près cela. On va vous laisser dormir tranquillement.
Demain.
Ouais.
J'ai une dernière question. On va se lever tôt demain. On attendra le.
Bien sûr. Émile, il a une dernière question, Nasser.
J'ai une dernière question. Que penses-tu de, penses-tu que ce sera un match engagé? Parce qu'on a quand même les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont jouer un match important, comme on l'a si bien dit, contre le Bayern de Munich. Penses-tu que les joueurs vont s'engager réellement, auront peur de prendre des blessures? Est-ce que ça va être un match plaisant à regarder ou simplement une association de stars ou quelque chose d'assez marketing?
Bah, après quand on connaît par exemple Kylian Mbappé, Léo Messi ou ces joueurs-là, ils veulent toujours montrer qu'ils sont toujours là, même s'ils vont pas prendre de risques non plus. Mmh. Mais on devrait voir quand même un match animé. Il faut pas oublier qu'ils préparent, c'est un match de préparation. Et Christophe Galtier, vous pouvez compter sur lui pour mobiliser ses joueurs, même si c'est un match d'exhibition, pour mettre de l'intensité dans cette rencontre. D'ailleurs, vous l'entendrez puisque demain on y sera pour vous faire partager cette rencontre dès demain 18h ici au stade du Roi Fahd international ici à Riyad, dans une ambiance, je vous le dis, hein, il sera à guichet fermé. On va se régaler, j'en suis sûr, et on devrait voir des buts.
Allez, régalez-nous, Nasser. C'est un grand bonheur de vous avoir depuis Riyad. On se retrouve dès demain, Nasser. Hein, on se retrouve dès demain.
Merci beaucoup, Bilal. Merci vous tous autour de la taille, aux coachs, etc. Ouais. Puis je vous dis à très vite, en espérant bien sûr qu'on passe un bon moment. Ça, pour information, ici dans la rencontre qui se rencontre entre l'Inter et le Milan AC, c'est l'Inter qui mène 2-0 avec bien sûr le but de Di Marco et de Zeko. Et ben voilà, comme dirait l'autre, comme tout à l'heure quand j'étais à l'hôtel de l'Inter, on l'avait vu, hein, que les dirigeants de l'Inter étaient vraiment déterminés à ramener cette coupe pour l'Inter. Et ben voilà, on peut dire que les carottes sont pratiquement cuites pour le Milan AC.
Alors, merci Nasser d'avoir été avec nous. Justement, toujours déterminé. Un grand merci à Meshad, à Émile pour sa première, à Toto Bellozzo, sans oublier le coach Tolé, et vous, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve dès demain. Place à Vanessa, 21h-23h. Bye bye.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.